lis un verset dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 8, je lis le verset 28. Nous savons que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. On peut aussi traduire « Dieu fait tout coopérer pour le bien de ceux qui l'aiment ». Ce n'est pas sur ce verset que notre méditation, notre réflexion va porter ce matin, mais sur un livre qui l'illustre remarquablement. C'est un livre tout à fait à part dans la Bible. C'est un livre qui ne mentionne nulle part le culte, nulle part la prière, nulle part la foi, ni même nulle part le nom de Dieu. Aucun des noms de Dieu, car il y en a plusieurs dans l'Ancien Testament. Ce livre est souvent laissé un peu de côté. Et en près de 60 ans de prédication, je ne suis pas sûr d'avoir prêché sur lui avant ce matin. C'est le livre d'Esther. Ce livre appartient au canon que les autorités d'Israël avaient reçu le mandat de reconnaître, et Jésus a ratifié ce canon hébraïque de l'Ancien Testament, ce qui veut dire qu'il est vraiment parole de Dieu pour nous, qu'il est plénièrement inspiré et utile pour la formation de l'homme ou de la femme de Dieu. Je vous propose de concentrer notre attention sur son message. Mais comme je crains que tous ne n'aient pas parfaitement présent à l'esprit tous les détails de son contenu, je vais d'abord, sur la première partie, le résumer en lisant quelques passages du livre. Et je commence par les tout premiers versets. Esther, donc chapitre 1er, verset 1er. C'était au jour de Xerxès. Ce Xerxès régnait depuis l'Inde jusqu'à Couche sur 127 provinces. En ces jours-là, le roi Xerxès s'assit sur le trône royal de Suse, la citadelle. La troisième année de son règne, il donna un banquet pour tous ses princes et pour toute sa cour. Nous sommes au temps de l'Empire perse, ou Médo-Perse, qui a englobé tout le Moyen-Orient. Il avait été constitué par les victoires de Cyrus le Grand, celui dont le livre de Daniel nous parle et qu'avait annoncé à l'avance le prophète Ésaïe. Après Cyrus le Grand, celui qui avait organisé les choses, c'était Darius le Perse. Darius dont il est question dans le livre d'Esdras, dans les premiers versets des livres d'Agé et de Zacharie. Et celui dont il est question dans les versets que je viens de lire, Xerxès, était le fils de Darius, qui lui a succédé sur le trône en 486 avant Jésus-Christ. Alors cet empire était immense. Il allait depuis, nous dit le texte, depuis l'Inde. En gros, c'est ce que nous appelons le Pakistan, depuis le grand fleuve Indus, qui descend du nord au sud au Pakistan, jusqu'à Couche, c'est-à-dire la Haute-Égypte, le Soudan. L'Égypte était englobée. Et la Turquie aussi faisait partie de cet immense empire. L'une des capitales, c'était Suse, la ville de Suse, dans le golfe Persique, pas si loin de la mer, j'ai regardé sur la carte, c'est à peu près en Iran, à 100 km à l'est de la frontière entre l'Irak et l'Iran aujourd'hui. C'était l'une des capitales, avec une citadelle, etc. Il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été faites, en particulier par des équipes françaises, dès le 19e siècle, dans cette ville de Suse. Il y avait là, dans cet empire, pas mal de juifs. C'étaient les descendants de ceux qui avaient été déportés par les Assyriens lorsque le royaume des 10 tribus du nord, capitale Samarie, avait été vaincu, 722 avant Jésus-Christ, et les descendants de ceux qui avaient été déportés du royaume de Juda par les Babyloniens en 597 et 587 avant Jésus-Christ. Ils avaient été déportés, mais ils n'étaient pas dans des camps de déportés. Non, ils étaient établis dans des villes, dans des villages, avec la liberté de circuler, et pas mal d'entre eux avaient bien réussi dans les affaires. Et donc, il y avait pas mal de Juifs dans toutes ces 127 provinces, réunies dans une vingtaine ou un peu plus d'une vingtaine de satrapies de ce royaume de Perse. La troisième année de son règne, Xerxès, alors il faut que je donne quelques explications sur son nom. Je ne suis pas sûr de réussir à bien prononcer à la manière médo-perse. Il devait s'appeler quelque chose comme Rchachaya. Les Hébreux avaient transcrit ce nom en hébreu, alors là je peux vous dire les choses d'une manière un peu plus certaine, Ahashverosh. Et c'est ce Ahashverosh qui, par le truchement du latin, est devenu dans un certain nombre de nos Bibles, Assuérus. Vous voyez comment la transcription se fait d'une langue à l'autre. Assuérus. Mais les Grecs, eux, avaient simplifié de leur côté et ils avaient transcrit ce même nom, Xerxès. Et c'est pourquoi dans le livre d'histoire français, en général, c'est le nom Xerxès qui est employé. Et donc, dans la Nouvelle Bible Second, c'est le nom qui a été retenu. Vous voyez, c'est toujours le même. C'est toujours le même nom, mais au hasard des transcriptions diverses. Donc, ce Xerxès, en 483, quelque chose comme ça, avant Jésus-Christ, organise une série de banquets pour tous ses grands. C'est très certainement pour préparer la guerre contre la Grèce qu'il a menée dans les années qui ont suivi. Son père, Darius, avait été vaincu, il avait échoué dans une entreprise contre la Grèce. La poignée de soldats citoyens courageux et intelligents des villes grecques avait résisté à l'immense armée de cet empire si étendu, en particulier à la bataille de Marathon. Le mot Marathon vient de cette histoire-là. Et le fils Xerxès donc décide de recommencer, de monter une immense expédition contre les Grecs. Il l'a fait pendant plusieurs années. Il a fini par être battu lui-même. Il a réussi à ravager la ville d'Athènes que ses habitants avaient dû évacuer. Mais il a été finalement battu par une bataille navale, la bataille de Salamine. La flotte grecque, bien plus habile que la flotte perse, a réussi à l'emporter. Et lui aussi est rentré bredouille finalement chez lui. Donc, cette histoire de grand banquet, la troisième année du règne, est certainement liée à cette histoire de la guerre contre les Grecs. Au cours de ces banquets, il paraît qu'il jugeait que pour être davantage à l'écoute des dieux, le vin pouvait aider. Alors, ils étaient un peu pris de vin. Dans l'euphorie donc, du vin, il décide de montrer sa belle reine, la reine Vashti, très belle fille, à tous ses convives. Et Vashti refuse de venir. Est-ce que c'était le dégoût de tous ces grands, quelque peu avinés, autour de leur table de banquet? Est-ce que c'était un caprice? Nous ne savons pas. Mais en tout cas, ça a fait scandale. Et tous ces messieurs ont eu très peur. Est-ce que cette révolte féministe allait gagner, faire tache d'huile? Et donc, ils ont exigé que Vashti soit déchue de son titre de reine. Mais il fallait la remplacer. Bien que le harem ait déjà été assez fourni, hein, mais il fallait la remplacer. Et donc, des inspecteurs ont été dans tout l'empire pour chercher les plus belles filles, pour les amener au harem du roi Xerxès et pour qu'ils choisissent celle qu'ils voudraient comme reine. Et Et parmi ces filles qui ont été choisies, il y avait une jeune juive, une orpheline, mais que son cousin Mardochée avait adoptée, une jeune juive très belle, qui s'appelait en hébreu Hadassa, qui veut dire myrte. Le myrte est un arbuste très élégant et qui répand un grand parfum, un parfum très fort et agréable. Elle s'appelait de ce nom-là en hébreu, mais l'autre nom qu'elle a eu, souvent il y avait deux noms justement parce que c'était un empire avec plusieurs langues, Esther. Esther semble vouloir dire étoile, c'est star, c'était une star. Et elle a donc été amenée à ce harem, et quand Xerxès est revenu de la guerre, eh bien il a essayé toutes ces jeunes beautés, et c'est Hadassa Esther qui a gagné, qui a remporté le prix, qui a été choisie comme reine, donc sans doute en 479 avant Jésus-Christ. Son cousin et en même temps père adoptif, Mardochée, occupait une place importante dans le gouvernement de la Perse. Il travaillait dans ce que le texte appelle la porte du palais royal, mais la porte, ça veut dire le lieu de gouvernement. Au temps de l'Empire ottoman, si vous vous rappelez, le gouvernement du sultan s'appelait la Sublime Porte. C'était le nom officiel qu'on donnait au gouvernement turc à l'époque. Donc la porte, ça veut dire le lieu de gouvernement, et il était certainement là en assez haute position. Et se trouvant dans cette situation, il a eu vent d'un complot contre la vie du roi, Xerxès. Alors, il a immédiatement fait passer l'information et le complot a été déjoué, les conspirateurs ont été exécutés. Mais sur ces entrefaites, un homme est monté au pouvoir par la volonté du roi, un certain Haman. Haman dit la Gigite dans nos traductions. La plupart des commentateurs pensent que ça veut dire qu'il était un descendant du roi Malécite Agag, dont il est question dans le premier livre de Samuel, au chapitre 15. Entre Amalek et Israël, c'est toujours la guerre. Et ce roi Agag avait été épargné par le roi Saül, bien que défait dans la bataille, et Samuel a souligné quelle désobéissance cela représentait de la part de Saül d'avoir laissé en vie ce roi et des troupeaux, etc., qu'il aurait dû tout dévouer par interdit. Et le roi et Samuel a mis en pièce ce roi Agag. Alors, amener peut-être un descendant de ce roi Amalécite et Mardochée, apparemment, de la famille de Saül, précisément. Alors, avec 6 siècles d'écart, hein. Mais peut-être que c'était une sorte de deuxième manche de l'histoire qui nous est racontée dans le premier livre de Samuel. En tout cas, ce Haman, ennemi des Juifs, antisémite à coup sûr, c'est à cause de l'antisémitisme qui était déjà présent que Mardochée avait dit à Esther, tu ne dis pas que tu es juif. Ce Haman devient le grand vizir et il obtient du roi que tout le monde se prosterne devant lui. Et il y a un homme qui ne se prosterne pas quand il arrive au palais, c'est Mardochée. Alors là, de nouveau, nous ne savons pas pourquoi il refuse de se prosterner. Il refuse de se prosterner peut-être parce qu'il y avait une composante religieuse qui ne n'est pas dite dans le texte, peut-être. Peut-être parce qu'il avait un statut spécial qui permettait de plaider au moins que l'ordre du roi ne s'appliquait pas à lui. En tout cas, il ne le fait pas. Et Haman est furieux, furieux, furieux. Il en rage de ce juif qui ne se courbe pas devant lui. Et il prémédite alors la première solution finale. Vous savez que c'était l'expression choisie par Hitler et ses sbires pour exterminer entièrement le peuple juif. Il prévoit donc une journée de massacre à grande échelle contre tous les juifs de l'Empire. Et alors, comme il est superstitieux, ça fait partie de la religion qui est la sienne, il tire au sort le jour où ce devra avoir lieu, le jour favorable pour ce massacre. et le mot en perse, c'est le mot pour, le sort qui est jeté. Et il obtient l'agrément du roi en faisant miroiter devant le roi la somme considérable qu'il va pouvoir engranger tous les biens des Juifs spoliés. Tous ces biens des Juifs, ça fera des milliards. Et donc le roi est d'accord. Il donne son accord pour ce massacre planifié. Mardoché l'apprend. Mardoché prend le sac et la cendre, les signes extérieurs de la plus grande alarme. C'est peut-être pour impressionner un peu l'opinion publique, peut-être pour que tous les Juifs soient mis au courant, mais c'est aussi une façon d'implorer Dieu. Mais c'est pas, ça ne s'est pas dit, hein, dans ce silence que le livre observe. Et il fait passer un message à Esther, et ce message, alors nous allons en lire, c'est le cœur du livre, ce message qu'il fait passer à Esther, se trouve au chapitre 4. Mardoché lui dit tout ce qui arrivait, ainsi que le détail de l'argent que Haman avait promis de peser dans les coffres du roi pour qu'on fasse disparaître les Juifs. Il lui donna aussi une copie au messager d'Esther, de l'écrit signifiant l'édit de destruction qui avait été publié à Suse, pour qu'il la montre à Esther. Il devait lui faire un rapport et lui ordonner d'aller chez le roi pour le supplier et l'implorer en faveur de son peuple. Son messager va rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Et Esther lui dit de rapporter, mais tous les gens de la cour du roi, ainsi que le peuple de toutes les provinces royales, savent que quiconque, homme ou femme, se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué, est mis à mort, en vertu d'une loi la même pour tous. Seul peut rester en vie celui à qui le roi tend son sceptre d'or. Or, moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à venir chez le roi. On rapporta à Mardoché les paroles d'Esther, et à Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu fais partie de la maison du roi. Si tu ne dis rien en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et ta famille, vous disparaîtrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther fit répondre à Mardoché, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûner pour moi, sans manger ni boire, ni la nuit ni le jour, pendant 3 jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Sur quoi j'irai chez le roi, avec mes servantes, j'irai chez le roi, malgré la loi. Si je dois disparaître, je disparaîtrai. » Mardoché s'en alla pour faire exactement ce qu'Esther lui avait ordonné. Sur ces prophètes, le roi a une insomnie. Il n'arrive pas à s'endormir le soir. Et, en guise de somnifère peut-être, il se fait lire la chronique, selon les registres, la chronique des jours de son règne. Alors, on lui lit cela, et il tombe juste sur le passage qui rapportait le rôle que Mardoché avait joué pour déjouer le complot contre la vie du roi. Alors le roi demande, mais qu'est-ce qu'on a fait pour Mardoché? Comment est-ce qu'on l'a récompensé? Bon, on n'a rien fait, on n'a rien fait. Ah bon? Alors le roi se dit, il faut faire quelque chose. Et quand il voit Haman, le lendemain matin, il lui dit, et attendez, qu'est-ce qu'on devrait faire pour quelqu'un que le roi veut honorer? Et Haman se dit, oh, si le roi veut honorer quelqu'un, c'est moi. J'ai toute sa faveur. Et donc, il demande pour celui que le roi va honorer tous les honneurs royaux possibles, être dans les habits du roi, sur une monture royale couronnée. C'était l'habitude des Perses de mettre une couronne sur la tête du cheval. Et puis, voilà. Il faudra que tu conduises cette personne toi-même dans toutes les rues de Suse. Quoi ? Cette personne qui ? Mardoché ? Aman a fait préparer une potence pour Mardoché. Un énorme poteau pour accrocher son cadavre à la vue de tous, 23 mètres d'après les notes des bibles d'études. Et voilà qu'il est obligé, premier renversement de ce récit, premier renversement, d'honorer son ennemi, juré Mardoché, de cette façon. Après, il obéit. Et puis, Esther alors tente le tout pour le tout. Elle se présente au roi. Elle risque sa vie, hein. Elle risque sa vie, parce que la loi dit, si le roi ne tend pas le sceptre d'or, alors la personne doit être mise à mort. La personne du roi est tellement sacro-sainte. Elle risque sa vie, mais le roi lui tend le sceptre d'or. Il accorde sa vie, il l'avait quand même bien, hein. Il l'avait choisi. Et alors, très habilement, Esther, elle ne demande pas la grâce du peuple juif. Elle invite le roi à un souper, et avec Aman. Alors, le roi accepte, et c'est une manière habile pour elle de travailler la psychologie du roi, et peut-être son estomac. Elle devait être assez sûre de sa cuisine. Elle l'invite à ce festin. Ça se passe très bien, ça se passe très bien. Et le roi lui dit, « Demande-moi ce que tu veux, la moitié de mon royaume, vas-y. » Et lui dit, bien, je te demande de revenir demain, de revenir une deuxième fois pour un banquet comme celui-là. Alors, sans doute un petit peu surpris, mais comme il a très bien mangé, il est content, et il est d'accord. Et donc un deuxième banquet a lieu le jour suivant, encore avec Aman, hein, puisque c'est le grand vizir, il est à lui. Et alors là, la reine Esther joue son atout. Au moment où le roi lui dit, « Mais demande-moi ce que tu veux, même la moitié de mon royaume. » Elle lui dit, « Je te demande la vie, et la vie de tous les miens, de tous les juifs. Car celui-là, ce Aman, il veut tous nous détruire. » Vous vous rendez compte du renversement? Alors le roi est extrêmement agité, furieux, il sort de la pièce, et puis il revient un peu après, et Aman, qui a compris que c'était très grave, s'est précipité aux genoux de la reine, et lorsque le roi voit ça, ça a l'air d'être comme une entreprise physique de la part de Aman sur la reine. Et ça, c'est un crime, alors. On voile le roi fait voiler le visage de Aman. Il est condamné à mort. Et c'est lui qui se retrouve sur la potence qu'il avait lui-même dressée pour Mardoché. Mardoché prend sa place. Mais alors là, la reine demande à ce moment-là que le décret soit rapporté. Mais c'est impossible. La loi des Mèdes et des Perses, c'est qu'un décret royal ne peut pas être annulé. Alors, que faire? La seule solution, c'est un autre décret supplémentaire qui va permettre aux Juifs de se défendre. Le roi va leur accorder sans doute les armes voulues et tout, pour qu'ils puissent se défendre le jour dit, le jour du sort. Et lorsque ce jour arrive, c'est bien ce qui se passe. Ils ont le droit de s'attaquer à tous leurs ennemis. Et il y en a des centaines dans la ville de Suse qui sont mises à mort par les Juifs. Une panique saisit tous les autres. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui se font Juifs, qui se font prosélytes du judaïsme dans la crainte de ce peuple qui réussit si fort. Et dans toutes les villes, il y en a plusieurs milliers. Après la traduction grecque, c'est 15 000. Probablement le chiffre de 75 000 dans les textes hébraïques est une exagération de scribes, de copistes ultérieurs. Donc on peut dire 15 000, c'est plus probable, mais il y avait quand même du monde, hein, de tous les adversaires des Juifs. Après cela, une fête, la fête des Pourim, des sorts, a été instaurée parmi les Juifs, qui s'est observée encore aujourd'hui dans le judaïsme. C'est une fête, c'est la fête la plus laïque, la plus séculière dans tout le judaïsme. Elle n'est pas commandée par la loi, la Torah n'en dit rien. Mais on échange des cadeaux, c'est une fête. qui a un caractère donc moins religieux que toutes les autres, jusqu'à ce jour. Voilà l'histoire que nous raconte le livre. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut en tirer? Quel est le message qui peut aujourd'hui nous intéresser? J'en retiens 4, mais je vais les présenter brièvement à cause de l'heure que nous avons atteint. La première s'accroche à un élément que peut-être on ne remarque pas d'emblée, mais une fois qu'on l'a remarqué, il est peut-être un peu dérangeant. C'est la conformation au monde, à la façon mondaine de se conduire, qui est le fait des héros de l'histoire, Esther et Mardoché. Esther, elle aurait pu refuser et aller jusqu'au martyr, parce que bien sûr, elle n'avait pas d'autre choix, mais refuser d'être emmenée dans le harem du roi. On a quand même l'impression que Dieu a un autre projet pour le mariage. Elle accepte d'être emmenée avec les autres. Elle joue ensuite de tous ses charmes pour obtenir ce qu'elle veut du roi. Et Mardoché est impliqué dans l'administration du royaume, et même son nom est un nom qui suggère cette conformité. Le mot Mardoché, Mardochai en hébreu, vient du nom du dieu Marduk, du dieu païen Marduk, dieu de Babylone. Et ce dieu avait deux noms d'ailleurs, et on retrouve le deuxième nom, Bel, dans le nom donné à Daniel. Daniel aussi, Belshazzar. C'était un nom de dieu païen. Il y a des gens qui, parmi les chrétiens évangéliques, peuvent être choqués. Je crois que c'est un avertissement contre un extrémisme évangélique qui confond les compromis inévitables de la vie dans le monde et les compromissions pécheresses. C'est une attitude très très simple. On se retire du monde au fond. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas de nous ôter du monde. Mais alors que nous sommes animés d'un autre esprit, quand même, de travailler à la prospérité de la cité païenne. C'est ce que Jérémie aussi avait dit aux exilés dans sa lettre du chapitre 29 de Jérémie au verset 7. Il y a un purisme qui est une solution de facilité, qui permet de passer à côté du discernement. C'était un purisme aussi qui était celui des Esséniens au temps de Jésus. Les Esséniens, ceux qui s'étaient retirés justement hors d'Israël, dans le désert, à Qumran, au-dessus de la mer Morte, ils étaient logiques, radicaux. La loi disait que le grand prêtre devait être un fils de Zadok. Or, depuis les guerres des Maccabées, le grand prêtre n'appartenait plus à cette famille. Et au temps de Jésus, c'était les Romains qui nommaient les grands prêtres. Les Esséniens disaient, mais voilà, le culte est illégitime, le grand prêtre est illégitime, le culte est illégitime, nous devons nous retirer, nous ne pouvons plus adorer dans le temple. Vous voyez ce que j'appelle l'extrémisme. Jésus et les apôtres n'ont pas fait comme ça. Ils ont considéré que, malgré toutes les déficiences de ces grands prêtres, il restait les grands prêtres. Donc nous avons là un exemple qui peut nous avertir lorsque nous sommes tentés par un radicalisme trop simple au bout du compte. Ça, c'est une première leçon. Deuxième leçon, alors c'est la grande leçon du livre. Il n'est pas question de Dieu tout au long. Mais en un sens, il n'est question que de Dieu tout au long et de la souveraineté de son plan. Et ce que Mardoché dit à Esther ne se comprend pas sans cela. Le secours nous viendra d'un autre côté, si toi tu ne prends pas tes responsabilités. C'est la confiance. L'autre côté, c'est évidemment Dieu. Aucun Israélite ne peut lire ces versets sans le comprendre. Et c'est peut-être pour ça que tu as été mis dans la place que tu occupes maintenant. Ça veut dire qu'il y a un plan qui se réalise, un plan divin. Mais tout cela d'une manière cachée. Tous les hasards de l'histoire, le hasard du caprice de Vashti, le hasard de l'insomnie du roi, tous ces hasards, le livre nous invite à coup sûr à comprendre qu'il s'agit du plan de Dieu, qu'il s'agit de l'exercice de sa souveraineté. Vous le voyez ? C'est en quelque sorte ce silence est tonitruant pour nous le proclamer. C'est comme quand on découpe des lettres dans une plaque qui est éclairée par derrière, c'est le vide de ces lettres qui proclame le message. Par le silence sur le nom de Dieu dans le livre, nous avons une proclamation particulièrement forte que c'est Dieu qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté et qui le fait alors même qu'on ne voit pas. Le message pour nous, c'est que alors même que les choses semblent à toutes seules, sans Dieu, que Dieu semble absent, c'est lui qui détermine toutes choses. Et avec deux conséquences, deux autres éléments du message que je mets en relief, le méchant fait une œuvre qui le trompe, comme dit un verset des Proverbes. Celui qui creuse une fosse, un trou pour faire tomber les autres, tombe dedans. Tôt ou tard, alors ça peut être après la mort, dans la perspective biblique, mais tôt ou tard, celui qui s'oppose au dessein de Dieu le fait pour sa propre destruction, comme pas mal. Ça, c'est le rappel du jugement de Dieu qui s'exerce dans l'histoire et au-delà de l'histoire. Et puis l'autre message, alors, c'est que Dieu prend soin des siens, que Dieu ne laisse pas son peuple sans secours, que Dieu assure qu'au bout du compte, son dessein de paix, de justice pour les siens aboutira. Pour son peuple tout entier, le peuple qui est formé aujourd'hui de tous ceux qui croient en Jésus, et pour chacun, Esther, Mardoché, chacun de nous, Dieu a un plan qu'il réalise dans sa souveraine sagesse, et même si on ne le voit pas, il s'agit de le croire pour se tenir devant lui dans la joie de la reconnaissance. Voilà le message, Esther. Nous allons chanter ensemble, avant de nous préparer au repas du Seigneur, un cantique qui dit la perfection de l'œuvre de Dieu, cette œuvre invisible. C'est le cantique 56.